Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Bonjour, nous sommes rendus à notre 8e rendez-vous ici à CJLV, la radio mieux-être. Nous allons enfin aborder le phénomène extraterrestre, les ovnis, oui, les objets volants non identifiés. Plusieurs personnes croyaient que Richard Glenn s'intéressait presque exclusivement au phénomène extraterrestre, aux soucoupes volantes. En réalité, vous l'avez remarqué, on est rendu à la 8e semaine, 8e rendez-vous d'ésotérisme expérimental ici, et c'est la première fois que je vais aborder le sujet. Et avec un invité qui est un ami à moi depuis de très nombreuses années. Il était déjà là dans les années du câble, soit dans les années 80-90. Et maintenant, il peut être considéré comme faisant partie de l'équipe des productions d'ésotérisme expérimental en tant que recherchiste, collaborateur et intervenant, puisqu'il est, on pourrait dire, spécialiste aussi du phénomène extraterrestre, soucoupe volante. Et aussi des mouvements, car il voyage beaucoup à travers la littérature, les cinémas, le film de science-fiction, aussi bien que les documentaires scientifiques sérieux, crédibles, autant en français qu'en anglais. C'est un grand atout, hein, de parler les deux langues et de pouvoir le lire. Alors, je vous le présente immédiatement. Il s'agit de Pierre-Charles
Dubreuil.
Voilà, j'attendais ta présentation toi-même, Pierre-Charles. Eh bien oui, alors bienvenue à notre émission d'ésotérisme expérimental. Alors, comme on se connaît, tout le monde va comprendre qu'on va se tutoyer, hein? Il n'y a pas de problème là. Alors, Pierre-Charles, aujourd'hui, c'est la première de deux. Okay. T'es d'accord de revenir pour l'émission numéro 9?
Oui, pas de problème. Si ça va bien avec celle-là, on pourra faire la suivante.
Oui, j'espère qu'on va survivre à celle-là. Alors oui, on est à l'époque de Noël 2014. Et vous allez vous demander pourquoi je fais la référence avec Noël, puisqu'on parle à Noël du Père Noël. Et le Père Noël ne vient-il pas des airs, entouré de petits hommes verts, qu'on appelle les lutins du Père Noël? Et la caractéristique particulière, c'est qu'on dit que le Père Noël loge au pôle Nord. Et dans la tradition ésotérique, on sait que le pôle Nord serait l'ultimatulé, c'est-à-dire le lieu d'origine de la pensée, de l'énergie qui vient du pôle Nord. Et là, on va commencer à parler de choses sérieuses, puisqu'on prétend qu'il y aurait des ouvertures au pôle Nord et au pôle Sud qui permettraient à des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre d'en sortir et d'y rentrer. On a eu même des témoignages, soi-disant très sérieux, la famille Jensen, le père et le fils, des Norvégiens qui étaient avec leur bateau de pêche, à un moment donné, ont perdu le nord. Oui, parce que leurs boussoles se sont affolées, ils ont perdu la direction. Plus tu approches du pôle nord, plus ça devient impossible à une boussole de juger où elle est par rapport au pôle nord, est rendue au pôle nord. Dans le jargon de l'ufologie, il y a beaucoup d'informations, on ne sait plus vraiment qui dit vrai. Car depuis 65 ans, dit-on que l'ufologie aurait débuté avec l'observation de Kenneth Arnold en 1947, et très précisément le 24 juin 1947. Ben oui, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Et oui, c'est cette journée-là qui, dans les monts Rainier, dans l'Ouest américain, avait, à bord de son petit avion personnel, vu passer une escadrille d'objets volants non identifiés, que lui-même a appelé des soucoupes volantes. Et c'est de là qu'est parti le terme. Flying saucers, c'était des vaisseaux qui avaient l'air de rebondir comme s'ils frappaient une surface d'eau quand on lance une pierre. Parce que ça y allait comme par secousse, par vague, par ondulation. Et toute l'escadrille est passée tout près de son avion et il est resté marqué. Il est sorti après avoir atterri en disant très rapidement, « J'ai vu passer des choses incroyables. » C'était pas vraiment circulaire ce que lui a vu. C'était plus en forme de boomerang. Mais en disant « soucoupe volante », on a oublié la forme d'origine et on a gardé en mémoire qu'une soucoupe, ben, c'est rond. Et on les a toujours imaginées comme étant parfaitement rondes. Quoique, il y a eu beaucoup, beaucoup, bien sûr, d'observations des vaisseaux qui étaient comme deux soucoupes renversées une sur l'autre. Mais ce n'était pas le cas de la première observation officielle de Kenneth Arnold. Tu es d'accord avec ça, Pierre-Charles?
Absolument. C'était, comme tu dis, des boomerangs, là.
Oui, c'est ça. Mais qui se déplaçaient pas comme des boomerangs.
Non, ils s'en allaient dans une direction. Ils semblaient avoir un mouvement, il disait, un mouvement erratique.
Oui.
C'est là qu'il a sorti la phrase célèbre, là, comme une soucoupe qu'on lance à la surface de l'eau.
Oui, c'est ça, parce qu'on ne pouvait pas sentir s'il s'en allait de manière rectiligne. Il avait l'air de rebondir tout le temps. Mm. Et yes. depuis ce 1947, ben, est apparu beaucoup de types de soucoupes volantes ou d'objets volants non identifiés. L'expression UFO, Unidentified Flying Object, objet volant non identifié. Là, en utilisant le terme objet, on imagine tout de suite quelque chose de matériel. Et les Français ont préféré changer l'appellation par PAN, P-A-N, un phénomène aérien non identifié, ce qui ouvre la porte beaucoup plus large à d'autres choses que seulement des objets. Ça peut être des boules de lumière, ball of lights, des choses qui ne sont pas nécessairement des objets. Mais quoi qu'il en soit, on est, semble-t-il, visité. En tout cas, il y a des observations qui nous prouvent que par le radar, par des gens très crédibles comme des pilotes d'avions de ligne internationale, sans compter tout l'aspect militaire d'observation par les radars, où là, on l'a vu au début des années 2000 avec le fameux Disclosure Project d'un urgentologue, le Dr. Stephen Greer aux États-Unis, qui a réuni des dizaines et des dizaines de témoignages très, très crédibles. Les gens sont venus au micro au Washington Press Club rapporter leurs expériences. Ils n'avaient que 10 à 15 minutes chacun pour déballer leur sac, dire ce dont ils avaient été témoins. Parmi les événements les plus marquants, les témoignages les plus marquants, je dirais, c'est vraiment les militaires qui ont rapporté à plusieurs reprises que lorsqu'ils ouvraient des silos nucléaires avec des fusées intercontinentales, avec un ogive nucléaire sur la tête de la fusée, presque immédiatement arrivait en position stationnaire au-dessus des silos, un OVNI. Un OVNI, un objet volant non identifié qui venait paralyser toute l'électronique de façon à ce que si un fou aurait osé peser sur le bouton rouge pour lancer les fusées intercontinentales, ben, il n'y aurait rien qui aurait fonctionné. Et ça, ça a été vu aussi en Allemagne, en France, probablement en Russie. On n'a pas eu d'écho réellement. Hein. Toi, tu n'as pas eu de rapport là-dessus, Pierre-Charles, là, qu'en Russie?
En Russie, je ne suis pas tellement au courant, non.
Non, c'est ça. On était à l'époque, évidemment, de la guerre froide. Mais il semblerait que, donc, ces êtres, ces intelligences, certains les appellent des intelligences supérieures, IS. L'expression a été utilisée dans les premiers temps par Mme Elena Petrovna Blavatsky, qui était une Anglaise, une Russe, évidemment, Petrovna Blavatsky, oui, qui est allée en Inde et qui est revenue avec ce qu'on appelle la doctrine secrète. Ça, un jour, on en reparlera des grands enseignements de la tradition ésotérique. Et elle les appelait justement des intelligences supérieures, IS. Et ces êtres-là, donc, voit à tout. Il semble être informé presque instantanément sur les éléments critiques de notre monde. On pourrait se demander pourquoi ils ont laissé tomber les bombes d'Hiroshima et Nagasaki sur le Japon. C'est des grandes questions, j'allais presque dire existentielles, mais pour les ufologues, ça demeure une des énigmes, car être ufologue, ceux qui font l'étude des phénomènes OVNI, ben, c'est un domaine extrêmement périlleux pour garder son équilibre psychique, psychologique et intellectuel. Pourquoi? Parce que depuis cette époque-là, ben, on n'a toujours pas de soucoupe volante en laboratoire. On a quelques photos, on peut toujours dire c'est truqué, c'est arrangé. On a une multitude de témoignages. Ça va de la femme qui se dit être une extraterrestre dans un corps humain. Bon, on a d'autres qui se disent être allés à bord d'OVNI, être allés sur la face cachée de la Lune où il y aurait des bases. D'autres qui vont dire qu'ils sont le frère de Jésus amené sur une planète des éternels où ils ont rencontré Bouddha, Jésus et tous les autres. Alors, il y en a pour tous les goûts. Et si vous pensez que le phénomène OVNI n'existe pas, pensons juste à l'idée que c'est la façon idéale pour noyer le poisson. On donne plein d'informations. À travers le lot, il faut faire soi-même le choix, le tri, selon sa propre démarche, sa propre intelligence, ses propres intérêts, pour dire « moi, je garde ça, c'est bon, ça, j'aime pas ça ». C'est comme un immense buffet sur lequel on va chercher les éléments qui répondent à nos attentes, à nos besoins très personnels et, j'allais dire, très intimes d'ailleurs. Parce que lorsqu'on parle des contactés, c'est-à-dire les gens qui ont été mis en rapport avec les pilotes, les passagers de ces ovnis, ben, on peut dire que les contactés se classeraient en trois catégories. Les contactés programmés, missionnés ou manipulés. Alors, je reviens pour les donner un peu en détail. Le programmé, c'est celui qui, après avoir rencontré ces êtres, a l'impression qu'ils sont toujours là, omniprésents, et que toutes ses actions dans sa vie sont contrôlées, comme un robot qui est programmé, une programmation mentale, qui fait que ces humains-là qui ont eu des contacts, ils sont contactés, ont l'impression que toute leur vie est organisée comme un programme avec un agenda très précis. Les missionnés, ben, c'est ceux qui ont une mission, qui ont un message à transmettre pour convaincre les autres humains. Et en général, on revient avec les mêmes messages fondamentaux qu'on retrouve dans les religions, comme aimez-vous les uns les autres, soyons pacifiques. Souvent maintenant, on est à la couleur de l'écologie. Bon, ben alors vous êtes en train de détruire votre planète. On ne vous laissera pas faire. On va intervenir. Mais là, tu as une mission. Il faut convaincre tes semblables humains. Alors, on comprend donc que les programmés, les missionnés, puis il reste les manipulés. Manipulés, écoutez bien, manipulés comme une marionnette. Il y a deux types de marionnettes. Il y a les marionnettes à cordes qu'on manipule par des cordes au-dessus. Donc, les petits bras, les petites jambes et tout ça, et fait comme... C'est comme... ils agissent sans trop penser par eux-mêmes. Ils sont manipulés. Et il y a les manipulations des marionnettes qu'on appelle « again », c'est-à-dire comme bobinette, vous vous souvenez? Bobinette et bobino. Alors, par en dessous, il y a une main qui contrôlent leurs mouvements, leurs pensées, leurs agir. C'est vraiment tout un univers étrange que le phénomène extraterrestre. Après la pause, nous allons tenter de mettre un peu de lumière, d'ordre dans tout cela, dans cette première de deux émissions consacrées ici à ésotérisme expérimental, au phénomène extraterrestre. Et après, je laisserai un peu plus la parole à mon invité, Pierre-Charles Dubreuil. À dans quelques instants. Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental. Et pour la huitième rencontre, à l'époque de Noël 2014, j'ai pensé enfin aborder le phénomène extraterrestre, soucoupe volante, OVNI. Pourquoi? Parce que beaucoup des gens du public se disaient « Comment se fait-il que Richard Glenn n'aborde pas le sujet alors que c'était le gars sur le câble des extraterrestres? » Ouais, non, c'est justement, je suis d'abord et avant tout un ésotériste. Et ensuite, le phénomène extraterrestre fait partie, on pourrait dire, de la partie occulte de l'ésotérisme, comme on pourrait aussi dire la partie occulte de notre réalité scientifique moderne. Tout le monde le nie, mais tout le monde en parle. Mais ça n'existe pas. Imaginez l'histoire du Père Noël si on commençait à faire des commissions d'enquête pour vérifier si le Père Noël existe réellement ou n'existe pas. On trouverait ça ridicule parce qu'on sait que le Père Noël n'existe pas. Et savez-vous qu'il y a environ 80 commissions d'enquête qui ont été faites à travers le monde par différents pays à toutes les époques depuis, entre autres, 1947, pour essayer de savoir le fin fond de l'histoire des soucoupes volantes? Si c'était juste une invention comme le Père Noël, là, des élucubrations d'illuminés, je n'ai pas l'impression que les gouvernements se seraient lancés à faire des enquêtes pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le phénomène soucoupe volante ou extraterrestre. Alors, on comprend qu'il y a quelque chose de vrai derrière ça, en tout cas depuis 1947 au moins.
C'est bien avant 1947 que l'être humain s'est posé la question, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? On peut noter, par exemple, que Pythagore, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, avait émis l'hypothèse qu'il était peut-être possible qu'il y ait des habitants sur la Lune.
Les Sélénites.
Effectivement, qu'on a appelé les Sélénites. Et pour revenir un petit peu dans le passé, comme ça, voir un peu l'évolution des idées qu'on a eues sur les extraterrestres, on revient, par exemple, vers la fin des années 1500, début 1600. C'est à l'époque où Copernic a commencé à dire que le Soleil n'était plus le centre, c'est-à-dire que la Terre n'était plus le centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil, idée qui a été reprise par Galilée, qui lui a valu d'être condamné naturellement par l'Église.
Ben oui.
Et à ce moment-là, ben, on a commencé à comprendre que, oups, si la Terre n'est pas le centre de l'univers, peut-être que notre position dans l'univers est différente. Il y a des gens qui se sont posé des questions, en particulier Giordano Bruno, qui a émis lui aussi c'était plus des visions, si on pourrait dire, une espèce d'imaginaire qu'il avait, mais une imaginaire où il pouvait imaginer quelque chose que personne ne pensait à sa place.
Presque là. Scientifique, dans un
pratiquement
sens.
Pratiquement scientifique.
Oui, c'est ça.
Et il avait dit, selon moi, Dieu ne peut pas avoir créé la vie seulement sur Terre. Probablement qu'il y a de la vie partout dans l'univers, qu'il y a des êtres qui ressemblent aux humains et qui sont peut-être même plus en avance que les humains. Et selon moi, l'univers est probablement infini.
Moi, je pense que Giordano Bruno finit sur le bûcher de l'Inquisition. Hein?
Oui, à cause, pas nécessairement qu'il avait dit que l'univers est infini, mais surtout parce qu'il avait été dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu. À cette époque-là, je pense que ce n'était pas une bonne chose à dire, mais aujourd'hui, ouais. Je pense que ça devient un peu à la mode chez certaines personnes.
Donc, je veux dire que bien avant 1947, la théorie ou l'idée des êtres comme des humains qui vivraient ailleurs que sur la Terre, on a arrêté d'être égocentrique,
anthropocentrique ou morphique.
Ouais. Oui, c'est ça.
Et un petit peu après, toujours dans la même époque, c'était l'époque des Lumières, hein, ce qu'on a appelé l'époque des Lumières en France,
oui,
surtout.
Oui.
Il y a eu deux auteurs intéressants, Cyrano de Bergerac, qu'il ne faut pas confondre avec la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, qui a été écrite par Edmond Rostand. C'était un auteur qui s'appelait Cyrano de Bergerac et qui a écrit un livre intitulé « Voyage dans la Lune et dans les empires du Soleil ».
Oui.
Et c'est un livre, il avait imaginé pour se rendre sur la Lune, attendre la rosée du matin. Et lorsque les bulles de rosée s'évaporaient, il s'était comme accroché après les bulles, puis là, il avait monté jusque sur la Lune avec ça. C'était ingénieux. Entre autres, dans son livre, il y avait quelque chose de très étrange pour l'époque. C'était 1686 environ, ou dans ce bout-là, là. Il avait imaginé que sur la Lune, lorsqu'il est arrivé là, les habitants de cette planète-là avaient une petite boîte. Et cette petite boîte-là, il bougeait une espèce d'aiguille. Et quand il changeait l'aiguille de place, c'était un son différent, comme une personne différente qui parlait. Et c'est assez curieux parce que quand on lit ça, là, on a l'impression qu'il décrit une radio.
Ben oui, c'est ça, là, autrement dit.
En 1600, quelque chose.
Bien
c'est
avant
très
que la radio soit découverte. Moi,
c'est pour ça que j'avais lu ce livre-là, ouais. Parce que j'avais vu rapidement là, quelques détails, puis j'ai dit, c'est donc intriguant, et j'ai voulu lire le livre au complet. Et à la même époque, un Français, encore une fois, un jeune Français de 27 ans, Fontenelle, a écrit un livre intitulé « Entretien sur la pluralité des mondes habités ». Le livre était composé d'un entretien qu'il avait avec une marquise dans le jardin. C'était très populaire, là, discuter de philosophie.
Oui, oui.
Et il expliquait que même si on ne voit pas d'habitants sur la Lune, il est très, très possible qu'il y en ait. C'est comme si on ne voit pas les habitants d'une ville très lointaine, mais on sait qu'ils existent quand même si on ne les voit pas avec notre œil. Et puis, il y a toute une dissertation dans son livre, là, puis ça date de, comme j'ai dit tantôt, 1686 environ. Là.
Ah, disons que c'est de l'imagination fertile de ces gens-là qui écrivent en littérature, mais ce ne sont pas quand même des gens qui rapportent avoir eu l'expérience de rencontre avec des êtres d'outre-espace sur d'autres planètes. Là.
Par contre, on pourrait se poser la question, si le phénomène OVNI a toujours été avec nous, à quel point ces gens-là n'ont pas été inspirés par des intelligences supérieures, comme tu parlais tantôt? Ça, moi, je dis que c'est une hypothèse qui est possible. C'est peut-être pas pour rien qu'ils se sont mis à parler de ça quand même. Là. On peut dire, oui, l'être humain par lui-même est capable d'imaginer ça, ou il peut avoir été inspiré par des intelligences extérieures à parler de ces sujets-là.
D'ailleurs, il y a une théorie qui veut que les extraterrestres qui se manifestent utilisent toujours les paramètres culturels des régions, des époques qui correspondent à l'expérience déjà connue par les êtres humains. Ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, les fameuses soucoupes volantes apparaissaient comme s'ils étaient des dirigeables. Mais quelques années avant qu'on invente les dirigeables, c'est comme toujours un petit peu en avance de notre temps, pour qu'on les voit un peu comme des précurseurs d'un temps. Et un jour, ben, on voit des dirigeables, puis on se dit, ah ben oui, mais il y en avait déjà avant. Et il ne faut pas trop brusquer l'être humain. Présentement, on a vu une vague, à un moment donné, de soucoupes volantes, de ball of lights, des boules de lumière. Et plus tard, ben, on a découvert qu'on pouvait avoir avec des énergies de plasma, l'énergie du plasma qui se dégage d'appareils électromagnétiques avec une charge très, très puissante qui dégage une lumière, une lueur autour de leur appareil. L'ionisation de l'air, entre autres, ça a créé comme une boule de lumière. Et là, on entend parler des drones. D'autres vont dire les ovnis drones. Ou les drovnis, drones ovnis, des drovnis, qui sont peut-être encore une manipulation de ces intelligences supérieures pour se faire toujours passer pour quelque chose qui pourrait être interprété comme étant quelque chose de naturel, d'ordinaire ou correspondant à l'époque, tu sais.
Ça ressemble un peu à la théorie de Jacques Vallée sur le mimétisme, où il disait que effectivement les voyageurs extraterrestres, si c'est ça, semblent un peu se déguiser selon la technologie de l'époque ou selon même les personnes qu'ils rencontrent. Par exemple, ils rencontrent un fermier un moment donné aux États-Unis et l'extraterrestre sort et offre une petite galette au fermier. Le fermier, d'habitude, connaît un peu les galettes, là, des choses comme ça.
Pour manger,
ça.
Là.
Oui, oui.
Ah, un petit gâteau, oui, oui.
Ou comme quand tu parles de tes dirigeables, on dit quelquefois que ça peut avoir été influencé par la science-fiction parce que c'est l'époque où Jules Verne avait écrit « Robeu le conquérant ».
Oui.
Et Robeu se promenait dans un genre de dirigeable là, quand on lit le roman. C'est la fameuse grosse vague d'OVNI. C'est la première vague d'OVNI, il me semble, de mémoire, là, qu'il y a eu aux États-Unis à la fin des années 1800.
C'est ça. Et les crop circles dont on entend parler maintenant en Angleterre, là, les agroglyphes, là, les champs de blé où il y a des dessins qui sont formés. Déjà en Angleterre, dans les années 1800, il y avait des champs qui avaient comme des graphiques, des dessins, des choses où on disait que c'était le diable qui faisait la chose, hein. On voit que le phénomène OVNI, le phénomène extraterrestre, appelons-le par son nom, hein, dérange, mais ne veut pas s'imposer. On entend parler souvent de ce qu'on appelle la directive première. Ça a été repris par la série Star Trek. Ah oui, mais là, j'arrive dans la science-fiction, pas pour vous dire que la science-fiction rapporte la réalité, sauf que la science-fiction s'inspire probablement de réflexions très intelligents par des gens qui se disent s'il y avait des êtres supérieurs à nous, probablement qu'on le sait maintenant, on essaie d'intervenir le moins possible dans des tribus primitives, ou même chez les animaux qu'on veut observer, on veut les laisser vivre de manière naturelle et libre. Alors la directive première, c'était quoi? Non-ingérence. Ne pas intervenir dans des sociétés en développement. On n'est quand même pas abouti, nous, l'être humain. Là. On a encore des choses à régler. On utilise encore là, l'énergie fossile pour avoir de l'énergie comme le pétrole, le gaz naturel. Alors, il faudrait être libre et ne pas détruire la planète pour avoir de l'énergie. Ben, dans Star Trek, peut-être que ces gens-là avaient eu de l'information de bonne source pour se dire, c'est certain, ou ont peut-être été, comme tu disais, inspirés par des êtres conscients, intelligents supérieurs, qui agissent sur les cerveaux des humains qui sont des auteurs de science-fiction. Hein? Bon.
Gene Roddenberry, entre autres, dans certains livres que j'ai lus, il semblerait qu'il était au courant de beaucoup de choses.
Sur le phénomène extraterrestre.
Oui, phénomène extraterrestre. On lui aurait présenté une porte des étoiles fonctionnelle.
Oh! Des êtres qui ne sont pas des humains?
C'est des humains qui l'ont amené à cet endroit-là et qui lui auraient montré ça. J'ai lu ça dans un livre, mais naturellement...
Alors là, toi, tu ouvres une porte, Pierre-Charles, là, t'en rends-tu compte que tu ouvres une porte qui aurait des humains qui sont dans le secret, j'allais dire, dans le secret des dieux. On n'est pas loin de la vérité quand on les a souvent pris, ces êtres extraterrestres, pour des dieux. Après la pause, on va parler justement de ces sociétés secrètes en rapport avec des dieux. Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn et son invité, Pierre-Charles Dubreuil, où l'on parle du phénomène extraterrestre. La musique qu'on entend, c'est une musique qui doit rappeler beaucoup de souvenirs à des gens d'une autre génération. Au siècle dernier, on avait été frappé, toute la planète, par un certain livre écrit par Eric Van Deneken sous le titre en anglais de « Chariots of the Gods », les chariots des dieux, traduit en français malheureusement par simplement « présence des extraterrestres ». Et cette musique nous a vraiment marqué. Elle était déjà très originale hein, dans sa présentation, mais là on entre en plein pied dans le monde de la mythologie, des religions qui nous disaient les dieux venus du ciel, qu'on pourrait aujourd'hui considérer peut-être plus comme des extraterrestres. Alors, ils sont passés sur Terre il y a très longtemps, dans la plupart des traditions qui font référence à des fils de Dieu. Hein?
Oui, les fils d'Elohim. Je dis le mot Elohim parce que, entre autres, il y a un nouveau livre qui vient de sortir, c'est récent, 2014, par Mauro Biglino. C'est un Italien qui est un expert en traduction pour le Vatican. Il a traduit les textes de l'Ancien Testament, entre autres, et le Nouveau Testament aussi.
Et, ben, le titre?
Le titre, c'est « La Bible, comme vous ne l'avez jamais lue. Les dieux sont-ils venus des étoiles? » Alors, dans ce livre, c'est vraiment une traduction, on pourrait dire, littérale de certains passages. Ce n'est pas le texte complet de la Bible, mais les passages les plus marquants qui, selon cet auteur, Mauro Biglino, nous dit qu'on ne peut pas faire autrement que voir la présence d'extraterrestres, l'intervention d'extraterrestres dans l'histoire de l'humanité, de la création de l'être humain et de la naissance des religions, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi, pour ceux qui connaissent et qui aiment, Zecharia Sitchin. Donc, il fait un lien ou un parallèle entre l'histoire des Sumériens avec les Anunnaki, Enki, Enlil et tout ça, oui. Et les Elohim, les Néphilim. Alors, c'est assez important, toutes ces notions-là. Et quand on lit la Bible plus littéralement et qu'on enlève le côté mystique et religieux, spirituel même, je dirais, qui a été imposé en quelque sorte par les églises dans la compréhension, on découvre quelque chose qui est beaucoup plus matériel et qui est beaucoup plus concret, qui est la présence des fameux dieux extraterrestres, entre autres les Néphilim, mot hébreu qui veut dire les tombés, qu'on a souvent associé aux géants, le fameux verset de Genèse, chapitre 4, verset 6, ou chapitre 6, verset 4, je ne me souviens pas, là, où on dit « Et lorsque les fils d'Élohim trouvèrent les filles des hommes étaient belles, ils prirent pour eux des femmes et eurent des enfants. »
Exact.
Alors là, on voit par les textes, et même les mots en hébreu sont très précis, qu'il y a un lien génétique entre ces fils d'Élohim et les terriennes. Et on se demande même, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait encore des descendants de ces fameux Néphilim qui, normalement, auraient dû être détruits lors du déluge, parce que dans l'histoire des Sumériens, il y a eu naturellement ce moment où les dieux ont dit « Ah, on n'est pas satisfait de ce qui a été fait, on détruit tout ça par le déluge. » Et dans la Bible, on dit que normalement, tout a été détruit dans le déluge, sauf un certain passage qui dit que les Néphilim auraient survécu. Et même quand on regarde l'histoire de David et Goliath, Goliath serait un descendant des Néphilim. Parce qu'on dit
grands.
Que c'était un géant, c'est ça.
C'est ça.
Puis, oui. Puis aujourd'hui encore, bien, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des descendants des Néphilim? Il y a certains auteurs qui vont jusqu'à dire, lorsqu'on lit entre les lignes, c'est peut-être pas dit directement dans leur livre, mais si on lit entre les lignes, ce qu'ils disent finalement, c'est que les descendants des fils d'Élohim et des femmes des hommes, c'est ce qui a donné naissance au peuple juif. Je ne sais pas si c'est une affirmation scandaleuse, là.
Laissons porter les théories pour le moment. Mais il faut dire que dans l'histoire ancienne de l'humanité, il y a quand même des traces incompréhensibles. On les appelle les artefacts anachroniques de l'Antiquité. Vous savez qu'en Inde, à New Delhi précisément, il y a un pilier en fer qu'on pourrait considérer comme de l'acier inoxydable, parce qu'on est quand même dans une région du monde où il y a des périodes de climat très, très humide, la mousson. Ce pilier qui mesure 50 cm de diamètre, 6 tonnes, 6 mètres de haut, en plein milieu d'une rue, les gens circulent en tournant autour de ce pilier-là, qui a toujours été là. Pour les anciens, ça a toujours été là, et on le retrouve même dans des textes anciens. Alors, d'où viendrait un pilier en acier inoxydable, qui remonte à la nuit des temps? Il y a les fameuses lampes éternelles. Les lampes éternelles qui remontent, elles, dit-on, en Égypte, à 6200 ans, bien, ce sont des lampes qui ni la pluie ni le vent ne pouvaient éteindre. Ça, c'est saint Augustin en 354 qui les rapporte, en disant que dans le temple dédié à Isis en Égypte, le tout à l'intérieur était éclairé par des lampes éternelle, qui dégageait une lumière bleutée, un peu violacée. Ça nous fait penser à l'arc électrique aujourd'hui, on le comprend. Alors ces artefacts, cette archéologie interdite, on n'est pas censé connaître ces choses, on n'est pas censé les expliquer parce que ça ne s'explique pas. C'était des inventions, des technologies qui remontent à l'époque de l'intervention des dieux venus sur Terre. Tantôt, Pierre Charles, tu nous parlais de Zacharia Sitchin. Il faut comprendre que c'était à l'époque des Sumériens, sa spécialité. Eh bien, les Sumériens, c'est justement dans le territoire où on a situé le paradis terrestre.
Absolument.
Ben oui.
Le Jardin d'Éden.
Et c'est à cet endroit où des dieux auraient fabriqué l'être humain, qu'il l'aurait fabriqué à son image et à sa ressemblance, ce qui veut dire qu'il lui ressemble à l'image, lui ressemble physiquement, et à la ressemblance, ça veut dire qu'il y a comme le même caractère, les mêmes pulsions, il y a les mêmes... Alors, c'est normal que ces fils des dieux trouvaient des filles des hommes qui étaient belles et les prises pour épouses, parce qu'il y avait une petite tendance à courir après, hein? Un peu comme l'être humain d'aujourd'hui. Et on est dans des territoires où, justement, aujourd'hui, on fait la promotion de la burqa pour que les femmes se cache pour ne pas être attrapé par des hommes et pour ne pas être attrapé par des fils des dieux. D'ailleurs, à l'origine même, les dieux étaient logés sur une grande montagne qu'on appelle le mont Hermon. Et ces dieux-là, qui observaient les déplacements des belles filles en bas, ben, des fois la nuit, ils venaient les kidnapper. Ils passaient des nuits très heureuses et il se passait bien des choses.
On trouve alors, ça, entre autres, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus là-dessus, dans le livre d'Enoch égyptien,
oui.
On décrit très, très bien, beaucoup plus que dans la Bible encore, ces fameux dieux descendus du ciel qu'on a appelés les veilleurs, ou en anglais, bon, les watchers, là.
Oui.
Et ces dieux-là qui, justement, avaient un œil sur les filles des hommes, comme on dit qu'ils s'étaient descendus au nombre de 200 sur le mont Hermon.
Oui.
Et que, en fait, c'était comme le chef de ces dieux-là, assez curieusement, avait le nom Samjazé. Et Samjazé, pour ceux qui connaissent un peu l'ufologie, c'est le nom de l'entité que Billy Mayer, un contacté suisse, prétend avoir rencontré. Alors, il y en a naturellement qui voient un côté un peu négatif à ça en disant, ben si c'est Samjazé que Billy Mayer a rencontré, c'est un des « démons » entre guillemets là, de l'histoire du livre d'Enoch.
Oui, puis il y en a qui prononcent Samjazé par Semiazé.
Oui.
Puis lui disait même que c'était une belle fille, une belle femme, je pense, là, Semiazé. Et là, on comprend qu'ils n'ont pas respecté la fameuse directive première de non-intervention. Et de là, la raison pour laquelle ils ont été en rupture avec leur monde à eux, le monde des extraterrestres bienveillants. Eux sont devenus les malveillants qu'on a appelés les démons. Et puis, on dit même, en allant plus loin, vous le savez déjà sans doute, chassés dans les entrailles de la Terre.
Et voilà.
Alors, on arrive encore au fameux, à la fameuse théorie de la Terre creuse, qui a été reprise par beaucoup de traditions, qui dit toujours que c'est l'enfer. Quand on parle du mot enfer, ça vient du terme inferno, qui veut dire inférieur, donc en dessous. Et au-dessus, c'est céleste, c'est au-dessus. Et donc, dans les entrailles de la Terre, ça me fait penser, quand on utilise le terme « les entrailles », ouais, au conte « le petit chaperon rouge ». Parce que dans cette histoire du petit chaperon rouge, on retrouve l'enfant de notre époque, notre civilisation, notre société, innocent un peu, qui doit suivre les préceptes de sa mère. La mère qui lui dit « petit chaperon rouge », là, va porter des victuailles à la grand-mère. Alors, à des générations passées d'une tradition très, très lointaine. Et elle le prévient, bien sûr, de respecter deux consignes. Ne change pas de voie, ne change pas de chemin. Suis le chemin principal qui va t'amener à la maison de Mère Grand. Et deuxièmement, ne parle pas à l'étranger, qui va se présenter sous la forme du loup. Et là, le loup va lui dire au petit chaperon rouge, « Ah, tu vas aller voir ta mère grand? Ben, prends le sentier qui est par là, c'est beaucoup plus court, tu vas arriver plus vite. » En réalité, c'est un chemin beaucoup plus long, qu'on pourrait appeler peut-être, si on veut, le chemin de la science, qui prend beaucoup plus de temps. Il faut tout vérifier en laboratoire avant d'arriver à une conclusion. Et alors, lui en profite, le loup, pour se rendre à la maison de mère grand, le premier. Toc, toc, toc. Tire la bobinette et la chevillette Sherra. Ah, la fameuse formule que tout le monde connaît déjà, qui est une formule magique, on pourrait presque dire. Et là, il entre et il saute sur la mère grand, la dévore d'un seul coup et prend la place de mère grand dans le lit. Quand le petit chaperon rouge arrive, tire la bobinette et la chevillette Sherra. Et là, l'enfant ouvre la porte et s'approche du lit sans immédiatement reconnaître un loup. Il pense que c'est Mère Grand. Il ne la voit pas souvent, semble-t-il. Et il lui demande « Pourquoi tu as de si grandes oreilles? Pourquoi tu as de si grands yeux? » Et vous savez l'histoire, hein? C'est lorsqu'elle va aller un peu trop loin en voulant trop brasser la cage pour essayer de savoir la vérité sur le phénomène extraterrestre que là, on apprend que « Pourquoi tu as de si grandes dents? » C'est pour mieux te manger. Et là, pouf, ça vient, il est trop tard. Il ne faut pas réveiller le loup qui dort. Le phénomène extraterrestre, en réalité, les ufologues sont toujours devant un cul-de-sac. On ne leur donne pas l'information que l'armée possède. Et ceux qui en disent trop, ceux qui fouillent trop, on les fait taire. Parce que trop brassé, on va réveiller le loup qui dort. Et tant que le loup n'est pas alerté, il ne sautera pas sur notre société pour la dévorer. C'est évident que ce conte du petit chaperon rouge a un aspect positif derrière tout cela. Il y a quand même un sauveur, celui qu'on appelle le bûcheron, qui se trouve à être le père du petit chaperon rouge, qui, le soir venu, était revenu à la maison et dit à sa femme « Mais où est l'enfant? » Et elle dit « Je ne sais pas, ça m'inquiète. » Elle est parvenue, est allée porter des confitures à Mère Grand. Alors là, le bûcheron se rend à la maison de Mère Grand, entre dans la maison et découvre le loup qui a pris la place. Et avec sa hache, puisqu'il est bûcheron, c'est facile pour lui, il ouvre le ventre de Mère Grand et libère l'enfant, qui est un seul morceau, encore très bien vivant, et la Mère Grand qui était aussi dévorée avant par le loup. Alors on réalise que le conte Le Petit Chaperon Rouge, qui a été créé par Charles Perrault en 1697, nous apporte un enseignement très précieux. Et vous savez, « Tire la bobinette et la chevillette, cher rat », c'est une formule magique que des sociétés secrètes connaissent sous l'expression « vitriol », V-I-T-R-I-O-L. L'explication vient tout de suite après cette pause. De retour à Ésotérisme expérimental, je vous révèle le sens caché du mot vitriol, V-I-T-R-I-O-L. C'est l'anagramme de visita interiora terrarum rectificando invanies occultum lapidem. En français, s'il vous plaît, maintenant. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant ton regard, tu découvriras la pierre cachée. Visite l'intérieur de la terre. Vous savez, la terre creuse, c'est une notion qui est véritablement cachée. Les autorités qui sont au courant de certaines choses évitent qu'on aborde le sujet, prétextant qu'à l'intérieur de la Terre, il y a un noyau de fer en fusion qui crée le champ magnétique de la Terre et que tout ça s'explique géologiquement parlant. Vous savez qu'il n'y a aucune mine, il n'y a aucun forage qui est allé bien, bien en profondeur de la Terre. Hein? Tout ça est très peu profond. Alors, on n'a pas d'explication très scientifique réelle. On a une théorie. Mais qui dit théorie, dit une opinion d'eux. Alors, vous savez, les couches terrestres de l'extérieur de la Terre, qu'on appelle les plaques tectoniques, donc froides, seraient, avec des couches de plaques tectoniques de l'intérieur de la Terre, froides. Et entre les deux, il y a des déplacements de ces plaques-là qui créent la couche de magma en fusion, qui sort par les trous qu'on appelle des volcans. Et donc, au-dessus, on a, nous, la population, qui avons les pieds sur Terre, attirés par la force de gravitation, et qu'à l'intérieur, les gens sont à l'envers de nous. On se marche sur les pieds, autrement dit. Eux ont la tête en bas vers le centre de la Terre, et attirés par la force d'attraction de la surface, sur laquelle ils sont aussi les deux pieds dessus, mais à l'envers de nous. Si vous repensez au conte d'Alice au Pays des Merveilles, ben oui, elle suit le lapin qui saute dans le trou, le rabbit hole, et le lapin qui se sauve avec une montre, parce que lui, il court après le temps, il ne veut pas perdre la notion du temps qui passe. Et elle plonge, elle aussi, dans le trou, et elle tombe, et elle tombe, et elle tombe, et à un moment donné, elle bascule. Vous verrez bien dans l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, elle bascule au moment où elle arrive entre les deux couches, de la surface de la Terre à l'extérieur et de la surface de la Terre à l'intérieur. Et là, elle arrive dans tout un univers. Vous savez, Jules Verne, qui a écrit plusieurs romans de fiction, Le voyage autour de la Terre en 80 jours, c'est devenu une réalité. 20 000 lieues sous les mers qui se déplacent en sous-marin, le capitaine Nemo, vous en direz long. C'est devenu une réalité. Voyage vers la Lune en faisant partir ses héros de Floride. Ben oui, c'est devenu une réalité. Sauf qu'il nous manque le voyage au centre de la Terre. Est-ce que Jules Verne avait su la réalité derrière la fiction? Et il faut connaître Olaf Jensen, Norvégien, qui est passé par le pôle Nord pour arriver vers l'intérieur de la Terre. Il a vu des êtres très, très grands. Un peu comme ceux que Pierre Scholz nous parlait tantôt des Néphilim, qui sont des grands, des géants comme David et Goliath là, qui s'étaient battus. Alors, on réalise qu'il y a une information qui est réellement cachée, même aux ufologues. Ou alors, est-ce que les ufologues ont peur d'en parler? Ou tout simplement, c'est parce qu'on a tellement misé sur des extraterrestres qui viennent des confins de l'univers qu'on oublie qu'il y a probablement une réalité qui est bien plus proche que les confins de l'univers, qui serait l'endroit où se seraient réfugiés des civilisations très, très anciennes. Et quand je dis très anciennes, ben c'est vraiment très. Là. Ça peut être 100 000 ans. Et qu'à l'époque, ils avaient développé des véhicules qu'on appelle des ovnis, des soucoupes volantes aujourd'hui, avec la possibilité d'invisibilité, de téléportation. Albert Bender, dans les années 50, avait publié un magazine, Space Review. Et en 1953, elle déclare « Dans mon prochain numéro, je vous révèle la vérité sur le phénomène extraterrestre dont personne ne parle encore. » Il reçoit la visite de trois hommes avec un chapeau noir, des lunettes noires, un manteau noir. Oui, trois hommes en noir, les Men in Black. Ce n'est pas de la farce, là. Ce n'est pas seulement un film pour faire rire tout le monde. Il y a un fond de vérité derrière ça. Et suite à cette visite, il devient malade, ne publie pas le fameux numéro qui devait révéler l'origine réelle de tout ça. Et les années passent. On n'entend plus parler de Albert Bender jusqu'en 1963, où il décide de publier un livre qui s'appelle « Flying Saucers and the Three Men », les soucoupes volantes et les trois hommes en noir. Il termine son livre en disant « Suivez Shaver ». Shaver, Shaver.
Richard Shaver.
Richard Shaver, exactement. Et Richard Shaver, il faut dire que c'était celui qui publiait un magazine qui s'intitulait « Amazing Stories ». Qui avait été publié entre 1945 et se terminait en juin 1947. Mais durant ces deux années-là, des milliers d'Américains ont lu au moins un des magazines Amazing Stories. Et ça s'est terminé par des êtres qui venaient des fonds des cavernes, de l'intérieur de la Terre. Alors, le Albert Bender savait que ces êtres qu'on appelle des extraterrestres sont des êtres chassés dans les entrailles de la Terre. Vous vous souvenez, là, le conte, le petit chaperon rouge? Alors, le petit chaperon rouge était rendu dans les entrailles du loup qui s'est fait ouvrir le ventre par, évidemment, le bûcheron qui était son père. Alors oui, c'est triste à dire, mais le phénomène extraterrestre n'est pas seulement bienveillant, mais il y aurait une catégorie d'êtres qui veulent posséder l'humanité, sauter sur la nature humaine un peu comme un loup. D'ailleurs, Whitley Strieber a écrit un livre qui s'appelle...
Wolfen.
Wolfen, ça veut dire les loups?
Ça a le rapport avec les loups, oui. Il y a Wolf. Un film qui a été fait là-dessus aussi.
Oui.
Et c'est ça, Whitley Strieber a toujours été un peu dans l'horreur, si on peut dire.
Oui, oui. Il a toujours eu peur de ce phénomène-là.
Ouais.
Il était obsédé même... Parce qu'il n'a peut-être pas fait une rencontre très agréable.
Lorsqu'il était jeune, il a découvert plus tard qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Il a écrit en 1985 le livre Communion.
Oui.
Et en 89, le film est sorti. Donc, c'est surtout depuis cette époque-là qu'on voit beaucoup plus les extraterrestres avec les grands yeux noirs. Avant ça, c'était pas nécessairement le modèle standard, je dirais.
Oui.
Mais je pense que Communion a beaucoup influencé, parce que la couverture du livre, c'était cette fameuse figure avec les deux grands yeux noirs en amande, là.
Parlant des grands yeux noirs, on sait que les petits gris, on les représente très souvent comme des yeux noirs. Est-ce que ce ne sont pas justement des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre où il n'y a pas de soleil? Ils ont peut-être ce qu'on appelle un soleil résiduel et qui dégage une luminosité, une lumière moins intense qu'un soleil comme on a ici à l'extérieur de la Terre. Et ces êtres-là, donc, auraient normalement développé des yeux beaucoup plus grands. Et quand ils viennent en surface, on les voit comme s'ils avaient des verres fumés, sauf qu'ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de nez assez proéminent pour installer des verres fumés comme nous autres, porter des lunettes. Alors, ils ont comme des verres de contact, des coquilles sombres pour diminuer la luminosité qu'ils ont quand ils viennent ici en surface de la Terre. Et on les voit seulement avec des grands yeux noirs. C'est étrange de voir que dans la tradition grecque très ancienne, on parle de ces êtres-là d'une certaine manière. C'est que Héphaïstos, qui est le dieu des enfers, qui a été rappelé sous le nom de Vulcain chez les Romains, Héphaïstos avait à son service une multitude de petits êtres automates. Alors, il y a un rapport avec les petits gris qui se ressemblent tous. Et au-delà de ça, donc, ces êtres-là, les petits gris qui sont pas tellement loin de nous, savent ce qui se passe en surface. Et quand on a commencé à faire sauter des bombes atomiques souterraines à Mururoa, dans les archipels de Bikini, au Nevada, il y avait des explosions souterraines. Hein? Une bombe atomique souterraine qui explose, ça craque le toit de leur maison.
Ben oui.
Nous, on vit à l'extérieur de la Terre. C'est comme si on vivait, nous, sur le toit de notre maison. Est-ce qu'il n'est pas plus logique, sachant qu'il peut arriver des astéroïdes, il peut arriver plein de choses, de se protéger en allant à l'intérieur de la Terre? Et ça, ce serait des êtres évolués de civilisations très, très, très anciennes. Je parlais tantôt de 100 000 ans avant la pause. Et donc, ils auraient eu à leur service des petits comme Héphaïstos, des petits serviteurs, robots, robotiques, biologiques. Alors, on est dans tout un autre univers que celui de parler de ces êtres chassés dans les entrailles de la Terre. Toi, Pierre-Charles, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des livres de référence avec cette interprétation de ce qu'on appellerait les démons?
Il est évident que comme moi je poserais la question, effectivement, est-ce qu'ils ont été forcés à aller vivre dans les entrailles de la Terre ou est-ce que c'est eux qui ont choisi d'aller là? Moi, je pense que la question est peut-être ouverte.
Oui, intéressant.
Et du côté, je dirais surtout chrétien. C'est eux qui vont apporter plus cet aspect-là du phénomène qui pourrait être démoniaque. Il y a un auteur, entre autres, aux États-Unis qui fait beaucoup de conférences et qui a écrit un livre qui s'appelle « Further Evidence of Close Encounters » où il rapporte des témoignages vraiment très clairs et concluants, si je pourrais dire, de rencontres avec des êtres extraterrestres, ou en tout cas qui nous semblent extraterrestres.
Ouais.
Et c'est l'auteur L.A. Marzulli. Et puis,
oui, que tu m'as fait rencontrer à Montréal.
Oui, on l'a rencontré ensemble. Et puis lui, ce qu'il dit, c'est que, selon lui, c'est pas des êtres extraterrestres, mais c'est des démons, effectivement. Des démons dans le sens plus religieux du terme, je dirais, des êtres malfaisants, des êtres qui veulent pratiquement nous voler notre âme, ça, on pourrait dire.
Oui, bien justement, ces petits gris-là, là, qui sont des automates, n'ont pas d'âme. Et leur intention, lorsqu'ils font des kidnappings qui amènent des gens à l'intérieur de la Terre, c'est pour essayer de découvrir par le code génétique, non pas faire des métissages biologiques avec l'être humain, mais trouver où est l'âme. C'est tout un monde, hein? Et on sait que dans la tradition ésotérique, on entend parler des incubes et des succubes. L'incube qui est une énergie mâle qui est là pour abuser, alors que la succube serait l'énergie femelle pour séduire. Le mot incube et succube vient de kubari, qui veut dire se coucher avec, qui a donné le mot en français concubine. Ah, mon Dieu, qu'on a traité de plein de choses aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue deuxième partie du dossier ufologique. Vous savez que tous les samedis soirs, nous avons des rencontres par Internet au canal Orandia TV sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver des compléments à notre rencontre d'aujourd'hui dans ce qu'on appelle le complément surprenant au site d'ésotérisme expérimental de Richard Glenn à l'adresse ésotérisme-exp.com. ésotérisme-exp.com. Alors, Pierre-Charles, tu vas être avec nous encore la semaine prochaine?
Absolument.
Alors, on va traiter la semaine prochaine du côté positif de tout ça, puisque le petit chaperon rouge a quand même été libéré de l'intérieur des entrailles du loup par son père, le bûcheron, qui est venu les sauver. On parlera justement des bienveillants. Avec le retour de la lumière après Noël, c'est tout à fait de bon aloi. Parler de l'étoile des rois mages. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Regardez autour de vous. Pour être heureux, on a tout ici, maintenant.